Aujourd'hui, étant donné hier j'étais obligé de m'occuper d'autres choses, donc je n'ai pas préparé l'histoire comment on fabrique les habits. C'est un truc, un sugya spécial. On va aborder cette question, comment on fait les fils. On va aborder ça demain. Est-ce que vous m'entendez? Faites comme ça avec le doigt. Vous m'entendez? Oui. Alors, on ne va pas aborder la question comment on fait le fil. Et les tissus, c'est une sugya à part. Nous allons faire aujourd'hui une prochaine sugya. Et après, nous allons demain aborder Bezrat Hashem. On espère d'être tous en bonne santé, nous et tous les Juifs. Okay, on va aborder ça demain, Bezrat Hashem. Alors, donc aujourd'hui, vous avez une Gemara. Ayin Bet Amud Aleph. Oui, c'est bon? Alors, je vais vous dire où. 1, 2, 3, 4. 4 lignes avant la fin. 4 lignes avant la fin du Hamoud. Vous êtes avec moi? Alors, ça commence. Amar Rabbi Chama bar Rab Chanina. Ça vous dit quelque chose? D'accord. Est-ce que vous êtes avec moi? Faites comme ça avec le doigt si vous êtes avec moi.
Quand on ouvre et qu'on tombe sur la bonne page, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que le bon Dieu, il veut pas que tu fatigues trop ton doigt. Donc, tu peux utiliser l'énergie du doigt dans ton cerveau pour mieux encore se concentrer. C'est un bon siman. Et il te fait gagner d'énergie. L'énergie ne sera pas perdue. Maintenant, ça peut être aussi une autre interprétation. Que hier, tu as tellement traluidé ta page de tous les sens que maintenant, c'est normal que tu tombes sur cela. Comme il y a des enfants, tu vois très bien à quelle page ils ont étudié. Parce qu'elle est à 70 fois, elle a des écornés, écorchés, déchirés, machinés, badulés. D'accord. Bon, alors.
Quelle date vous avez dit, Raph? J'ai pas entendu.
Ayin Bet Amud Aleph.
Vous êtes sûr que c'est Sota? On parle bien de Sota?
Non, Sota, j'ai dit n'importe quoi. Yuma.
Yuma, d'accord. Todaraba.
Yuma. Yuma, nous sommes.
Merci, merci.
Peut-être j'ai dit sauta, je ne sais pas pourquoi. On est
C'est pas
Yuma
très bien.
d'Afrin
Merci,
Bet
merci.
Amudalef. Maintenant, tu connais l'histoire des Poneim et Tcharav. Il voyageait beaucoup quand il a construit la yeshiva des Poneim. Après aussi, t'as encore un olam, les Poneim et Tcharav. Mais bon, c'est donné pour amasser d'argent et faire des drachotes. Alors, une fois, il est arrivé dans une choule. Donc, il dit, est-ce que vous pouvez m'apporter une Gemara, je sais pas, Psachim, Yuma? Alors, le Shamash il dit, excusez-moi, Rav, on est très gêné. Parce que, vous savez, je vais vous donner cette Gemara, mais j'ai dit, ah, qu'est-ce qui m'a fait? Quelle surprise il va me servir là. Elle est un peu déchirée, cette Gemara. Bon, apportez quand même. On lui apporte une Gemara, il était complètement déchiré de tous les coins, machin. Alors, la Shemashi, il dit, vous savez, dans notre Kehila, les gens sont tellement avides à faire les Gemarot, mais malheureusement, nous n'avons pas. C'était à pas aujourd'hui, il y a 80 ans, cette histoire. On est tellement avides. Donc, chacun, il prend cette Gemara et chacun, il la emprunte pour 2, 3 jours à la maison, il la ramène et tous. Et avec le temps, tout le monde l'a déchiré. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, la Poneim et Tcharav, il a répondu, vous savez, ça fait longtemps que je n'avais pas un plaisir comme aujourd'hui. Quand je voyage et je vais dans les choules et je leur demande, vous pouvez m'apporter telle et telle Gemara, on m'apporte toujours une Gemara et je vois malheureusement qu'elle a 20 années, 30 années qu'elle est imprimée, elle n'était jamais ouverte. Elle est neuve comme le jour qu'elle a été livrée. Parce que les gens dans cette choule-là, ils ouvrent jamais une Gemara. Ils m'apportent une nickel bien. Maintenant, aujourd'hui, je viens chez vous et je vois qu'elle est tellement déchirée parce que toute la communauté étudie. Alors, c'est un grand plaisir. Alors, si toi, tu dis que tu tombes pile sur cette page, ça veut dire qu'hier, tu l'as tellement manipulée, c'est-à-dire que tu l'as étudiée. C'était une bonne semaine. Alors, on va attaquer les choses sérieuses de la vie. Probablement, ça doit être le fils de Rabbi Hanina, je suppose. Et qu'est-ce qu'il faisait sur Rabbi Chama? À quelle époque il a vécu? Rabbi Chama, Rabbi Hanina. quand Rebbe il est niftar, avant d'être niftar, il a nommé quelqu'un à sa place. Donc il avait deux fils, il avait Gamliel un fils, et l'autre était Shimon. Mais qui l'a nommé comme Rosh Yeshiva? Il a nommé Rav Chama. Rav Chama Rabbi Hanina. Qui c'est Rabbi Hanina? C'est le copain de son copain sûrement, Rabbi Hanina et Rabbi Oshaya. Au Beis Din de Rabbi, il y avait des très très grands chachamim, Rabbi Hanina et Rabbi Oshaya. Eux, les plus grands collecteurs de braïtot. La majorité des braïtot, au Seftot, Rabbi Hanina et Rabbi Oshaya. Alors donc, ce Rabbi Hanina, il avait un fils qui s'appelait Rabbi Chama. Et lui, il a pris la place de Rabbi. Alors, ça, on peut s'imaginer qui c'est ce Rabbi Chama et Rabbi Hanina. Grand personnage. Parmi tous les élèves de Rabbi, c'est Rabbi Chama, il a pris sa place. Tous les élèves, tellement beaucoup d'élèves, il avait Rabbi. La Gemara dit en vérité, « Mimot Moshe, Adrabeinu Kadosh, lo haita Torah gedula b'makom echad. » Depuis Moshe jusqu'à Rabbi, on n'a jamais trouvé que la Torah et le pouvoir et la richesse se trouvent en un endroit réuni dans un homme. Ça veut dire quoi? Moshe Rabbeinu, il avait la plus grande sagesse du peuple juif. Il avait le pouvoir politique, c'est lui qui décidait. Et grâce à ce phénomène, la réunion de ces deux valeurs, c'est ça qui a fait qu'il a pu mettre en place le peuple juif, démarrer le peuple juif, faire sortir d'Égypte, le mettre dans le désert, le renseigner, le mettre sur les rails, faire décoller. Cette immense aventure du peuple juif, pour réussir un tel challenge, il fallait que l'homme, il a les deux choses. Il a la Torah, c'est-à-dire le plus grand savoir de Torah, et la plus grande capacité de coercition. Il était le roi, c'est lui qui décidait tout ce qu'on fait. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Depuis que Moshe Rabbeinu niftar, il y avait des gens, c'était Yeshua Binoun Mistama aussi, étaient les plus grands chacham. Non. La Gemara demande sur Yeshua Binoun. Les Chorah Yeshua Binoun, aussi les plus grands chacham. Et le pouvoir, il avait. La Gemara nous dit non. Il y avait Elazar HaKohen qui était grand comme Yeshua. Yeshua était grand, mais Elazar était autant grand que lui. Il n'était pas le plus grand au-dessus. Moshe Rabbeinu était au-dessus de tout le monde. Et qui sont la Gemara raconte toutes les générations, jamais on trouve qu'un homme cumule ces deux pouvoirim jusqu'à Rabbi. Rabbi, il avait, c'était le plus grand chacham de la génération, le tzaddik, le pieux de la génération. Il était archi riche. Et quel est le pshat? Pourquoi Kadosh Baruch lui a donné ces deux pouvoirim? C'est parce qu'il fallait faire la Torah chez Baal Peh, il fallait écrire les Mishnayot. Donc, il fallait réunir tous les chachamim. Donc, tout l'argent qu'Hachem a donné à Rabbi, et même le pouvoir politique qu'Hachem a donné à Rabbi, après qu'on a pu se débarrasser de tous les casse-pieds de ces Sadduciens et ces rois voyous du deuxième Beit Hamikdash, à la fin du deuxième Beit Hamikdash, le peuple juif s'est séparé de ces gens-là. Et le peuple juif s'est regroupé autour de chachamim. Donc, ils ont géré cet état. Rabbi l'a géré et il a réuni tous les chachamim. Et ils ont fait la Mishnah. Et après, depuis Rabbi jusqu'à Ravashi, il n'y avait pas ou Gedoula ben Makom Echad. Ravashi aussi était riche. Et c'était le plus grand chacham de la génération. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni tous les chachamim en Babylonie et ils ont décidé, ils ont défini la dernière touche sur tous les chasses. Et après, les Juifs sont partis éparpillés dans le monde. Et ben, je dois pas oublier. On voit quelque chose d'intéressant. Et des fois, il y a des générations plus tard qui viennent et Dieu leur fait un cadeau que les générations d'avant n'avaient pas reçu. Jusqu'à Rabbi, aucune génération a reçu ce cadeau. Jusqu'à Ravashi, personne n'a reçu ce cadeau jusqu'à Rabbi. Parce que la génération a besoin. Dieu donne les chefs de la génération, il donne aux chefs de la génération ce qu'ils ont besoin pour le besoin de cette génération spécifique. Ça, c'est les yesod qu'il faut toujours savoir. C'est Sefer Toldot Adam. Voici le livre de l'humanité que Dieu a montré à Adam Harishon. Il a montré Dor dor veshoftav. Dor dor vachasidav. Dor dor uparnasav. Dor dor vetzadikav. Dor dor uneviav. Dieu il a montré à Adam Arishon dans chaque génération qui seront les prophètes, qui seront les pieux, qui seront les tzadikim, qui seront les sages, qui seront les gens à influence, du début jusqu'à la fin de la génération. Ça veut dire qu'au ciel, qu'il y a des générations qui vont se dérouler une après l'autre. Vous entendez un bruit ou vous n'entendez pas? Si vous entendez, faites comme ça. Vous entendez un bruit, vous n'entendez pas?
On entend mal.
Vous entendez un peu.
On entend mal.
D'accord. Alors, vous m'entendez? Vous m'entendez? D'accord. Alors, chaque génération, elle est différente. Même que la pratique religieuse dans chaque génération, elle est la même, la halakha ne change pas. À Avobeken, il y a des moments où il faut faire des choses exceptionnelles. Et dans chaque génération, il faut faire des choses qu'on n'a pas fait avant. Donc, pour réussir ces challenges, Dieu, il donne les chefs de la génération. Et ça, c'est Pshat Rebbi et Rav Ashi, ils étaient Zoché. Et Rav Chama, donc, Rav Chama est devenu le successeur de Rebbi. Alors, on va continuer. Amar Rabbi Chama bar Rabbi Chanina, mai dichtiv, qu'est-ce que c'est ce qui est marqué? Atzei shitim omdim. Des bois de cèdre omdim, qui est debout. Qu'est-ce qu'il est debout? Le bois qui tient le Mishkan est debout. C'est-à-dire quoi, c'est debout? Sho omdim derech gedilatan. Ils étaient debout de la façon comme ils poussent. Ça veut dire que si quelqu'un il fait un chalet en bois, il y a deux manières comment on peut fabriquer un chalet en bois. Normalement, on met un arbre, une planche horizontale. On prend l'arbre et on le fait à la... On le pose par terre. Et après, un deuxième, ce côté, ce côté, ce côté. Et après, on met une autre dessus, dessus. Et après, doucement, doucement, on monte. Donc, le bois, il est toujours posé horizontal. Or, le Mishkan, il ne fallait pas faire comme ça. Le Mishkan, il fallait faire vertical. On prend une poutre et la poutre, elle doit être verticale, une poutre à l'autre. Omdin derech gedilatan. Ils doivent être debout de la façon comme ils ont poussé. Quelle est l'idée? Qu'est-ce que ça change? On aurait pu s'imaginer aussi un Mishkan que c'est le bois, il est posé. Pourquoi la Torah veut que le bois, il sera debout? Derech gedilatan, comme ça pousse. En vérité, un arbre, il pousse toujours droit. C'est un phénomène. Comme il y a une nature, on dirait les arbres, ils savent où est le haut. Mais des fois, même si on plante tordu, il se redresse. Il sait où est le haut. Il veut monter vers le haut. Il a une... Comme ça, la nature, elle est faite. Les fleurs aussi, ils poussent droit. Pourquoi ils ne poussent pas tordu? Hachem, il a créé comme ça que les choses vont vers le haut, vers le haut. C'est-à-dire qu'en vérité, le Mishkan, il est Gashmi. Le Mishkan, c'est du bois, mais c'est un arbre. Cet arbre, il a poussé. Et les gens qui rentrent dans le Mishkan, ils sont là pour s'élever et de s'élever toujours plus et plus vers le ciel. La mitzvah, c'est de se lever vers le ciel. Donc, Omdin derech gedilatan, l'homme, il doit toujours dans sa vie chercher de pousser vers le haut. Il ne faut pas se contenter avec un rôle rester petit. C'est dommage. Il faut toujours vouloir monter. Alors, on va continuer. Davar acher. Omdim, c'est-à-dire quoi?
Excusez-moi, c'est le Mishkan. Qu'est-ce qu'on appelle ici le Mishkan? Tout ce qui entoure le Aron HaKodesh et le... Et la table et toutes les autres trucs, le bois, c'était que cette partie-là, non? C'est ça?
Atzei shittim omdim, ce sont les planches du Mishkan, pas des outils des Mishkan, du Mishkan lui-même. Il y avait à gauche et à droite, il y avait derrière, il y avait le bois qui était couvert de l'or, les krashim. Ce qu'on a fait dans Parshat Teruma, les krashim. Si tu as Esrim Karesh, le Fat Tzafon, 20 Kerashim côté Tzafon, 20 Kérachim côté d'Arom, 8 Kérachim côté Maharav. Ça, c'est ce qu'on parle ici. On ne parle pas des kélim, on ne parle pas de l'armoire maintenant. On ne parle pas d'Aaron à côté, c'est plus tard. Alors, d'abord,
ma question, c'est autour du Misbéar à Nechochet ou pas ce bois? Il n'y a pas autour du Misbéar à Nechochet. C'était des planches. Non, comment c'était? C'était des rideaux autour du Misbéar à Nechochet.
Je ne sais pas de quoi tu parles. Je te dis qu'on parle ici les Kérachim. C'est clair, non? On parle de Misbéar maintenant. Qu'est-ce que tu parles de Misbéar? On parle des Kérachim.
Non, je parle autour du Misbéar. Le Mishkan, il y a
plusieurs parcours. On ne parle pas de Misbéar ici. Donc, personne ne parle de Misbéar.
Non, je ne parle pas du Misbéar.
Alors, on ne parle pas.
Mais alors, autour du Misbéar.
On ne parle pas autour du Misbéar. On parle de Mishkan, là où il y avait dessus les tapis. Il y avait bien des tapis. Le Mishkan, c'était les murs, les trois murs. Et dedans, il y avait le Kodesh Kodeshim, il y avait le Heichal, il y avait le Shulchan, le Mizbeach HaZahav, la Menorah. Et après, il y avait les poutres, tout ça encore. Alors, il faut fermer, il y en a qui n'ont pas fermé leur. Il faut fermer Rabotai, fermer le. Oui, monsieur Arbib, qu'est-ce que vous dites?
Ah, oui, par rapport à ce que vous avez dit, toute sa vie, il ne faut pas rester petit, il faut essayer de. Comment on peut comprendre ça? Toujours on cite un exemple, Moshe Rabbeinu, Anav, il n'y avait pas plus Anav que lui. Comment on peut rester petit, pas petit, mais rester. Comment. C'est dur à comprendre ça.
Je n'ai pas compris. Non, vous dites quand que... on est modeste, on grandit, exactement. Vous dites que la modestie, c'est la grandeur. Non, soyez plus modeste et vous allez être plus grand. Soyez plus chacham, faites plus de mitzvot. Soyez moins égoïste. Faites toujours plus et plus, comme ça on grandit. Vous avez peur que vous allez grandir tellement que l'orgueil va monter. Donc peut-être vous préférez rester à la maharetz, comme ça vous n'allez pas être orgueilleux. L'orgueil peut se trouver dans la maharetz aussi. Hein. L'orgueil n'a pas besoin de la sagesse pour être orgueilleux. En fait. Être nul, être orgueilleux. Alors, où nous sommes? Des fois, en vérité, les gens, ils disent, moi, je ne sais pas parce que je suis la maharetz, mais les gens, ils disent que les scientifiques, les vrais scientifiques sont modestes, comme ça on dit. Les vrais scientifiques, pas les faux, les orgueilleux, ceux qui ont les micros qui parlent partout. Mais les vrais scientifiques sont des gens très modestes. Ceux qui connaissent vraiment qu'est-ce qu'elle a la nature, ils sont tellement émerveillés devant la nature, devant la sagesse de ceux qui ont créé la nature, que ce qu'eux, ils savent qu'ils connaissent très, 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 très peu de ce que l'intelligence de Dieu, et ils se prennent tout petits. Ils ne sont pas orgueilleux, comme ça on dit. Alors, où nous sommes? Ils sont des grands maraminim, ça c'est pas chaud. Plus qu'un homme, il est un vrai scientifique, plus qu'il est un grand, grand croyant devant la puissance d'Hachem. Ça n'existait pas un scientifique qu'au faire. S'il le dit, c'est que non, mais c'est pas vrai. Alors, comme tous les gens du monde d'ailleurs, il n'y a aucun homme qui croit pas en Dieu. Et la honte ne se sépare pas entre les croyants en Dieu et les pas croyants en Dieu. Ah, voilà. Docteur Sergio, tu es là, j'espère que tu es là. Voilà, ici, tu vas ici, le Kérachim. D'accord, très, très joli. D'accord.
Donc, on revient chez nous. C'est le petit, quand on parle
non,
des
Kérachim. Non, il ne faut pas que tu aies raison. Non, non, il ne faut pas que tu aies raison.
Non, mais c'est lequel bois par rapport à la photo?
C'est pas grave. C'est bon. Bon, je ne peux pas te montrer parce que je n'ai pas. Tu ne vas pas mon doigt, comment je vais faire? Vous voyez mon doigt, je ne peux pas te. Ça ne marche pas. Alors, où nous sommes? Qu'est-ce que je voulais dire? Les gens, ils croient que le monde, c'est. Laisse, Serge. Alors, les gens, ils se partagent. Les gens, ils croient que les gens se partagent entre croyant en Dieu et pas croyant en Dieu. Moi, je ne pense pas que c'est vrai. Et ça n'existait pas. Tout le monde, il est croyant. Le monde, c'est. C'est partage entre ceux qui disent qu'ils croient et ceux qui disent qu'ils ne croient pas. Mais pas entre croyants pas. Entre ceux qui disent la vérité qu'ils croient et ceux qui mentent et disent qu'ils ne croient pas. Ça, c'est la division du monde. Alors, et s'il dit que vraiment il ne croit pas, alors c'est qu'il est vraiment un menteur. Alors, où nous sommes. D'abord, Rachel, Omdin, Shema Amidin et Tzipuyan. Le mot Omdin veut dire Ma'amidin, il tient, et Tzipuyan, leur couverture. Ça veut dire quoi ça? Vous avez Rashi. Shema Amidin et Tzipuyan, Tzipuy Hazahav, Ma'amidin, Alede, Masmerot. Ils étaient couverts de l'or. Comment l'or tenait sur le bois? Comment la plaque d'or tient sur le bois? Rachidi a l'idée masmerot, avec des clous. C'est-à-dire quoi avec des clous? Il y avait des clous, on clouait la planche, le couvercle en or. Combien? Quelle épaisseur de l'or on mettait sur le bois? Une petite couche. Quoi? 2 mm, 3 mm. Et comment ça collait? Avec de la colle? Il n'y a pas marqué qu'il y avait de la colle. Alors Rashi dit, avec des clous. Ça veut dire quoi? De l'extérieur, on a pris un marteau avec un clou encore en fer, en or. Quand on faisait un trou dans le bois, une vis, on a un clou ou une vis qu'on vissait l'or sur le bois. Et après cette vis, et il fallait la dorer. Après, on mettait une couche de l'or dessus pour qu'on ne voit pas où elle est, pour que ce sera plus beau. Non, ce n'est pas marqué vis, c'est marqué clou. Avec on tapait, alors on abîme l'or. On fait d'abord un trou. D'abord, on fait un petit trou dans l'or. On fait passer un clou qui a une tête. Grâce à cette tête-là, elle ne passe pas plus. Et après, on met un peu de l'or pour cacher pour que ce sera beau. Comme ça, pour la première traduction, elle est des masmerot, la shon acher, une autre explication. Qu'est-ce que dire Ma'amidin et Tzipuyan, shelo hitliu? Il y avait un miracle, shelo hitliu, qu'il n'y avait pas de ver de terre. Velo nafal Tzipuyan, omdim, c'est-à-dire résistant. Il restait pendant du millénaire, ce bois, sans que des vers ont mangé le bois. Ça veut dire, aujourd'hui, le bois, pour qu'il ne se rabîme pas, il faut le traiter. Il y a des produits qu'on met sur le bois, les tables, les chaises, ils sont tous traités. C'est pour ça, si quelqu'un il se casse, quelqu'un a une chaise ou une table qui se casse, il veut mettre dans son cheminée, ils disent que ce n'est pas bon. Parce que le bois autrefois, c'était que du bois. Donc, une chaise se casse, on met dans le cheminée, ça devient de consommer, produit de consommation. Mais aujourd'hui, il ne faut pas le mettre parce qu'il y a des produits toxiques. C'est pour ça, aujourd'hui, par exemple, une chaise qui se casse sur un tofes, qu'il est moukhtse. Dans la Gemara, il y a un shéla. Keilim shenish beru. Une fois que c'est cassé, ils sont destinés à être brûlés dans le four. Donc, ce n'est pas moukhtse. Si je me ne trompe pas, peut-être oui, peut-être non. Keilim shenish buru yom tov. Est-ce que c'est moukhtse? En tout cas, c'est une sugya. Parce qu'on va les brûler, mais aujourd'hui, on ne brûle pas une chaise qui est cassée. Peut-être c'est bémet moukhtse. Bon, alors, en tout cas, ici, il y avait Nes qui n'avait pas de verre. Malgré qu'il n'était pas traité le bois, il n'y avait pas de verre qui ont mangé. Velon a fal tzipuyan, et le tzipuy n'est pas tombé. Alors, on aurait pu dire le tzipuy, il était. Ça veut dire, on mettait l'or à un côté, l'autre côté, tous les quatre côtés, et en haut peut-être aussi. Et donc, c'est devenu comme une enveloppe, un étui. Le bois, l'or était comme un étui sur le bois, mais en haut, il y avait un tabahat. Normalement, le bois, l'or était que sur les quatre côtés de la poutre. Parce qu'on voyait le tabahat.
Oui. Comment l'or, il tenait sur le bois?
Et bien, c'est ça que je me demande. D'après la première explication, c'est par un clou. Et d'après la deuxième explication, Rashi, velo nafal tzipuyan, c'est quoi, un S ou ça? Comment ça tenait? Qu'est-ce qu'il dit, Tosfot, le dernier Tosfot? Shema Amidin, vous avez le dernier Tosfot?
Si,
tzipuyan.
Si c'est avec un clou, c'était peut-être des plaques d'or. Si c'était avec des clous, peut-être des plaques et qui recouvraient, et avec des clous, peut-être.
Oui. Des plaques d'or, vous avez raison. Il faut dire des plaques d'or, ou peut-être de la peinture d'or.
Oui, ou si c'est coulé, c'est recouvert au pinceau.
Est-ce que c'était recouvert au pinceau de doré? Comment ils font dorer une montre dorée? Comment ils le font?
Il a trempé.
Une montre qui est faite de métaux et après elle est dorée. Ça veut dire quoi? C'est un dixième, un centième de millimètre. Docteur Ellie, vous savez comment on dore une Rolex?
Oui. Ou bien pour le bois, il y a des feuilles d'or. Comme il recouvre des statues, les goïms, quoi que ce soit, ou des monuments, c'est des feuilles d'or.
Là où il est enterré Napoléon, comment s'appelle la coupole où il est enterré Napoléon? Eh les gars?
Le Panthéon?
Le Panthéon. Il n'a pas une coupole en or?
Les Invalides.
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 Et il y a aussi la mosquée en Jérusalem. Elle est aussi dorée. C'est quoi? C'est une fine, une plaque, une feuille d'or? Ou c'est de la peinture?
C'est des feuilles d'or. Des feuilles d'or.
Et pourquoi personne le demande? On ne peut pas monter l'enlever?
Non, c'est incorporé quasiment au bois. C'est comme une sorte de peinture. C'est des fines feuilles d'or. Pour la restauration des tableaux, ils font ça aussi.
Et les dents en or, les dents en or des dentistes, elles sont comment? Elles sont faites comment alors?
Les dents en or, il ne faut surtout pas se fâcher avec les dentistes, sinon...
Elles sont coulées.
Sinon, ils...
Les dents en or, elles sont coulées, c'est des moules.
Oui, alors on va continuer. Ils sont assurés par AXA. Où nous sommes? Tosot, tu m'as mis d'une cipouyane, Nireli. Il me semble d'affilo tzipouye zahav sha'alehen batel le gabi didhu. Le bois, l'or, il est batel vers le bois. De bechol duchte ha'etz batel le gabi ha'matechet. L'Inyan Tevila, Tosot, il pose la question. Ça, c'est une des choses archi difficiles de définir. Il faut chaque objet qui est composé par deux éléments, par du bois et par des métaux. Et les dynimes de Mikve de Kabbalah Touma ne sont pas les mêmes, du bois et du métal. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a un outil qui est composé, quand on a un objet qui est composé un peu de par d'or, un peu par le bois? Quel est le din vis-à-vis de Touma Vetahara? On lui donne le dinim de bois ou de l'or? Alors, Tosot, il dit, si puisav shelen batel le gabeditou, de bekol duchte, chaque fois, kol duchte, c'est-à-dire dans ma sechet kelim, il y a une sechet spécialisée pour définir le dinim de Touma Vetahara, des objets, des mikvé, etc. De bekol duchte ha etz batel le gabe ha matechet l'inyan tevila. Pour le dinim de tuila, le bois et les battels vers le métal. Ou le chol milé d'amar halech achar ha-ma'amid. Parce qu'on marche d'après le ma'amid. Normalement, c'est le métal. C'est-à-dire, si je vais avoir une table en bois et j'ai des clous en fer. Les clous en fer, le vis en fer sont le ma'amid, ce qui tient la chose. Alors, quel din je donne sur la table? Un din de métal, parce que c'est le métal qui est ma'amid, ou je donne un din de bois, parce qu'il est écart sur le bois? Normalement, Tosot dit, le bois, il est battel vers la materet, mais ici, c'est le contraire. Ma'amidin sipuyan, atzishitim einoken, share shulchan shel atzishitim haya, ou metsupe zahav, vafila ha'achi torat keili alav, Chatzipui batel le gabe haetz. Il dit, Bishili Chagiga, Yalif Latam Mikra. Le shulchan qui était fait en bois, couvert de l'or, il a un din de kli bois. Maynaf Kamina, il y a un halakha qui dit, kli etz haasui lenachat einu mekabel tuma. Un kli etz qu'on n'a pas la coutume de déplacer, il n'est pas mekabel tuma. Un homme, il a une armoire en bois. Je devais être mekabel touma, comme une table, comme une chaise. Mais si jamais on le bouge, Alors, il n'est pas mekabel touma. C'est un din spécial dans le bois. Pli etz ha asu il en nachat. Nachat, ça veut dire sans bouger.
Si, on ne le bouge pas.
Quoi?
On ne le bouge pas. Il n'est pas mekabel touma.
Voilà. Alors, mais maintenant, le métal, même si on ne bouge pas, c'est oui mekabel touma. Donc, si quelqu'un va avoir un armoire en or, malgré qu'il ne le bouge pas, c'est mekabel touma. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant au Beit HaMikdash si on a le Shulchan où il y a les 12 pains? Donc, si quelqu'un mort, il est venu, il a touché le Shulchan. Est-ce que c'est Mekabel Touma ou pas? Est-ce que je dis c'est du bois que bouge pas, donc c'est pas Mekabel Touma? Ou est-ce que je dis c'est de l'or, donc c'est Mekabel Touma? Alors, sur ça, la Gemara nous fait tout un pile-poule. Quel din il a le Shulchan? Agmar, à la fin de la Chagiga, est-ce que le Shulchan il est Mekabel Touma ou il n'est pas Mekabel Touma? Est-ce que maintenant il est Nanachat ou il n'est pas Nanachat? On voit que l'or il est battel vers le bois. Donc c'est un din spécial dans le Mishkan. Dans le Mishkan, l'or est battel. Dans le Mishkan, l'or il est battel vers le bois. Pourquoi c'est comme ça? Je ne sais pas. Pourquoi le Mishkan il y a des din spéciales? L'or était plaqué sur le bois, montre en or, une montre en or, on trempe le métal dans l'or ou par électrolyse dans l'or, comme pour les bijoux, par électrolyse. L'électrolyse, c'est quoi? C'est dans l'eau, on met un poudre de l'or, on met un peu d'électricité dans cet eau et ça fait coller la poudre autour de la montre, comme ça vous dites. D'accord, on va continuer. Alors, Omdin Shema, on va continuer. D'abord, Acher, une autre pshat. Omdin, pourquoi la Torah nous dit Omdin? Omdin, c'est-à-dire ça reste. Ça reste dans le temps, ça ne s'abîme pas. Shema Tomar, peut-être tu vas dire Avad Sevaran. Leur espoir est perdu. Mais non, il va dire le Mishkan. Bah, le Mishkan, Moshe Rabbeinu, il est mis à la Knisa. Et c'est fini. Plus jamais un juif, il verra le Mishkan. On a perdu l'espoir de voir le Mishkan, parce que le Mishkan, c'est l'œuvre de Moshe Rabbeinu personnellement. Un kdusha de folie. Mais dès qu'on a mis à la Knisa, la rentrée en Eretz Israël, peut-être cette beauté, peut-être ce merveille, peut-être cette sagesse est perdue à jamais. Clément Thomas, tu vas imaginer Avat Sivran ou Batal Sikuyan. Ça y est, le regarder la Mishkan, donner une chokma ou Rei Betavnitan, Kasheratam Morebo, regarder le Mishkan, ça donne une immense chokma d'ailleurs. Le Navi, il dit que si on étudie la forme du troisième Bet Mikdash, ça rend les gens Betchouva, comme ça dit le Cheskel. Et Kalmoum Yamanotam. Il y a une grande chokma dedans. Alors, Shem Tovar, Amat Sivan, Vatel, Sikon, Tamadlama, Omdim, She Omdim, le Olam, ou l'Olme, Olamim. En vérité, le Mishkan reste pour toujours. Et quand Mashiach va venir, on va faire sortir, Mashiach va faire sortir les poutres, tous les kelim que Moshe Rabbeinu a fabriqués. En vérité, il y a des kelim qui restaient, même à l'époque du deuxième Beit Mikdash, la flûte de Moshe Rabbeinu. Et le moulin avec lequel Moshe Rabbeinu a fabriqué le Ktoret, ça traversait toutes les générations et il l'avait encore à l'époque du deuxième Beit HaMikdash. Tu pouvais aller au deuxième Beit HaMikdash et tu pouvais voir le pilon avec lequel Moshe Rabbeinu a écrasé le Ktoret. Tu te rends compte? Moi, je l'aurais acheté pour 1 million à Judaïka, tu aurais vendu ça à Sesbi. Heureusement que ce n'est pas tombé dans leurs mains. Alors, qu'est-ce que c'est ce qui est marqué? Bik de Hasrad, le Sheret Bakodesh, les habits du Srad. C'est quoi Srad? Srad, c'est le service, le Sheret Bakodesh. Mais Srad veut aussi dire Sarid, rester. Les habits restés pour servir Bakodesh. Il m'allait, il fait une dracha, Alpiderer Drash, pas Alpipsad, pas Alpialacha. Il m'a dit que des Kohen, si nous n'avons pas eu les habits des Kohen, l'onishtaïa misonem chez l'Israël, ça ride ou palit. Il n'aurait rien resté des Juifs. Ça veut dire quoi? Les korbanot, ils étaient mechaper les péchés des Juifs. Et grâce à ça, le peuple juif, il a toujours survécu. Sarid, c'est ça qui fait survivre le peuple juif. Ils ont raché. Il m'a dit, Big Day Kouna, Achal, Yedehen, Makrivina Korbonot, grâce au Big Day Kouna, nous faisons des Korbonot. Amchaprim al Israël, alors il n'y aura rien resté. Rabbi Shmuel bar Nachmeni Amar, de Be Rabbi Shimon Tana, dont les Gishiva de Rabbi Shimon ont enseigné, Begadim, Shegordin, Otan, Kibriatan, Miklehen, Umesardin, Mehen, Klum. Qu'est-ce que ça veut dire, Big Day Srad? Le mot Srad, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des habits chez Gordin. On les gratte, on les enlève, qui brillatent telles qu'elles sont prêtes à l'emploi, Mikleihem, de leur machine à fabriquer. C'est-à-dire que normalement, quand tu veux avoir un pantalon, comment tu fais? D'abord, on est dans une usine, on fabrique d'un tissu. Donc, c'est des longs tissus qui sont 100 mètres longueur, 200 mètres en longueur, le tissu. Ça, c'est fabricant de tissus. Après, on te donne à toi, tu achètes 3 mètres. Après, tu prends un ciseau, le tailleur, il coupe. Une fois qu'il a coupé, et après, il prend une aiguille, et après, il prend un fil. Après, il fait un peu rond, arrondi ici, ici, après, il va coudre, machin, bidule, et après, doucement, doucement, il va monter une pièce avec l'autre jusqu'à. Elle sort ton pantalon, ton jaquet. Maintenant, les Big Day Kouna, ils n'étaient pas fabriqués comme ça. Ils ont sorti de l'outil de fabrication tout fait. Rashi, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Shegordin, Otan, Kibriatan, Miklehem. Kesheyu Chotrin, Otan, Begardin, Shelehen. Quand on les coupait, Begardin, Shelehen, avec leurs outils de fabrication, mitor klei arigatan, quand on l'enlevait de la machine de tissage, hayu asin kibriatan, on a déjà fabriqué leur forme kibriatan, comme à la fin chaloulin troué que derech levishatan, c'est déjà prêt à l'emploi. Velo que char yeria, pas comme un tissu normal. Qui font encore couper le midat alvush pour la forme belitforbe machad après coudre avec machad. Donc, sur la machine à fabriquer, le costume était déjà terminé. Ils étaient des archi chachmeilev beyadé à tabou.
Comme le tricot.
Quoi?
Comme la maille, le tricot. Quand vous fabriquez un pull, il sort déjà fini avec le fil.
Hazak.
Et pour la taille, comment il faisait?
Ça, il ne faut pas me demander comment il faisait. Moi, je ne sais pas comment on fabrique des habits.
D'être non, mais ils n'avaient pas tous la même taille, les Kohen Gadol. Et s'il y en a un qui remplaçait, il pourrait.
On faisait des grands, on faisait différentes tailles. On faisait des tailles archi XX, je ne sais pas quoi, ou XL, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, différentes tailles. Bon, Aaron et ses enfants, ils étaient tous grands. Mais après, il y avait Nechana, mais il y avait des grands, des petits, il y avait différentes tailles. Alors,
Aaron, il était petit, non?
Non. Ça, c'est pour vous blaguer. Aaron était grand. Aaron, Moshe et Aaron, ils étaient très grands. Les deux, ils étaient très grands. Lui, ils étaient tous grands. C'était une espèce, une tribu qui était grand. Ils avaient comme ça des gènes. Des gènes étant très grands. Alors, on continue. Mesardim behem klum ma'ihi, Rish Lakish amar, eilu ma'ase machat. Mesardim behem klum, vous avez Rashi, mesardim behem klum, meshayrin mehen miktzat. Un petit peu on laisse pour finir à la fin. Sheinu rogim behem, vezeh lo shansarad, ma'ihi. Qu'est-ce que c'était? Eilu ma'ase machat. C'est ce qu'on dit. À la fin, il faut prendre un tout petit peu, on va coudre à la fin. À la fin, un peu en ajouté. Quelle est la logique de tout ça? Quelle est la logique qu'on fabriquait, que tout est déjà fait depuis le début? Parce que assez pour comprendre tout ce Mishkan, il faut connaître un grand Yesod. Tous les Rishonim parlent de ça. C'est le Mishkan, c'est le petit monde. Hachem a créé le monde en 6 jours. Et les Juifs, ils ont fait le Mishkan. Alors on dit, le monde, c'est le grand, et les Mishkan, c'est en petit. Ou le contraire, le monde, c'est en petit, et les Mishkan, c'est en grand. Les Mishkan correspondent à tout ce qui est dans le monde. Et à Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a résidé dans le monde entier, mais après, il a dit, il faut que je suis encore dans quelque chose de plus... Le top de Doucha, c'est dans le Mishkan. Et on dit que Shabbat, on n'a pas le droit de travailler 39 travaux, parce que Dieu a utilisé les 39 travaux pour créer le monde. Et pour le Mishkan, on utilise aussi 39 travaux. C'est-à-dire, ce n'est pas un hasard. Quand on dit les dinim des Shabbat sont comparés à la construction du Mishkan et les travaux sont les travaux que Dieu il a créé le monde avec, ça veut dire que le Mishkan, c'est le monde. Et le monde, c'est le Mishkan. Ça, c'est Hachem qui a fait ça que les Juifs ils ont fait. Et Dieu n'a pas créé le monde Shabbat. Les Juifs n'ont pas créé le Mishkan Shabbat non plus. Hachem, il a dit aux Juifs, faites bon le Mishkan, mais le septième jour Shabbat, vous n'allez pas travailler. Et ça, c'est un grand limoud. Tout ce qui est dans le monde existe dans le Mishkan en petit. Alors, où nous sommes?
Et dans ce cas-là?
Alors, j'ai oublié de dire la terminée. De la même façon qu'Hachem, il a créé dans les six jours quelque chose de parfait, pratiquement parfait. C'était à 99,9% terminé. Hachem, il a créé comme ça. Même quand ils ont fabriqué les habits, ils les ont fabriqués déjà pratiquement terminés. Parce que de la même façon que Dieu aussi l'a fait comme ça. Dieu, il a créé un monde, tchlac, tout il a mis dedans. C'est pour ça d'ailleurs, tous les éléments qui existent aujourd'hui au monde existaient déjà depuis le début. Il n'y a pas de nouvelles choses qui sont venues après. Mais tout il a calculé déjà, la première explosion a été déjà avec tous les ingrédients, tout ce qu'il a besoin. Alors, on va continuer. Shenema maase oreg. Mais si on pose une couche à Big de Kuna et non sinon tel maase machat et la maase oreg. Le Big de Kuna, on ne le fait pas avec l'aiguille. C'est maase oreg. Tout est tissé. Tout est tissé. Shenema maase oreg. Donc, machma qu'on n'utilise pas du tout l'aiguille. Comment toi tu dis qu'à la fin on utilise l'aiguille? C'est la manche qu'on a cousue après. L'habit était terminé, mais le manche, on a ajouté avec l'aiguille. Le manche du Big de Kuna, c'est-à-dire du cotonnet ou du mi'il, et ben nereget bifni atzma, ça on tissait à part, et elle se collait, ima beget après avec l'aiguille. Ou magad at pisat hayad. Le manche est arrivé jusqu'à Pissat Hayat. C'est quoi Pissat Hayat?
Meryl, là, je dois vous laisser. Notre oncle est Niftar, là, de cette maladie. Là.
Qui?
Mon oncle, il est Niftar de cette maladie. Là. Donc, je dois vous laisser. Là.
Qui c'est votre oncle?
Mon oncle qui habitait Paris. Quoi.
Comment il s'appelle?
Akoun, Moshe Akoun.
Quel âge il avait?
87.
Et il était à l'hôpital?
Oui, il était à l'hôpital. On vient d'apprendre la nouvelle.
Aïe.
Bon, allez, bon courage à tous.
Écoutez,
mais je ne sais pas si vous pouvez faire la tahara. Je pense qu'il ne laisse pas faire.
Non, je crois que non, malheureusement, on peut rien faire, ni tahara, il enterre directement. Il y a juste que 10 personnes qui sont acceptées, quoi, c'est tout. Quoi.
Est-ce qu'on peut choisir où enterrer?
Il habite Paris, donc je pense que ça va être à Pantin, mais on peut pas faire la toilette. On avait reçu
Strasbourg, le qui est Niftar, le pauvre. Nordman, il a enterré. Il y avait 10 juifs qui l'ont enterré.
Oui, c'est ça. Ils acceptent pour les enterrements uniquement 10 personnes. Et le consistoire nous avait envoyé un message comme quoi que ceux qui décèdent de cette maladie, il n'y a pas de tahara. Ils l'enterrent directement dans le plastique. Quoi. Il n'y a pas de tahara qui est accepté. Quoi.
C'est comme il y a un cas dans la Gemara que Harug et Malchut, il n'y a pas de Tahara. Mais là-bas, c'est un autre cas. Quelqu'un qui est mort, un goy qui a tué un juif, eh bien, on ne fait pas de Tahara. On enterre avec l'habit et tout. un sandin spécial. Mais bon, mais ici, on ne peut pas. Quand on ne peut pas, on ne peut pas. Alors, bon. Alors que ce Dieu donne la vie à tous les Juifs, à tout le
amen.
Monde.
Amen, amen, amen. Allez, bon courage. Oui. Vous allez faire cours plus tard l'après-midi?
Bon courage. Je suis à 14h.
Ok. Bon, allez.
Donc,
voilà, je dois vous laisser.
Ce matin, j'ai lu un truc sur Internet. Vous avez vu cette histoire-là d'une fille?
Non, quoi?
Comment elle s'appelle? Taïeb. Une madame Taïeb qui racontait son père un iftar de 70 ans. Un Taïeb qui travaillait dans la... qui travaillait dans la publicité ou dans la, quelque chose comme ça. Elle a dit qu'il était en bonne santé, fraîche, jeune et tout. Ça y est, il est parti aussi. Elle racontait là-bas. Sur Internet aujourd'hui, vous ouvrez. Très émouvant. Elle raconte comment ça a été. Comme ça, vite. Sans laisser une chance. Comme ça, c'est un miracle. Alors, Vanessa Taïeb. Elle a raconté. Alors, Dieu nous protège. Alors, où nous sommes?
Amen.
Alors, Amar Abaye, l'on est très heureux de Bet Yad Shelahem. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui. Vembagat at Pisatayad. Le manche arrive jusqu'à Pisatayad. C'est quoi Pisatayad? C'est l'intérieur de la main. C'est ça, Pisatayad. Ça veut dire. Ça veut dire que l'habit venait jusqu'à ici, jusqu'à Pissat, jusqu'à l'intérieur de la main. Venait. Les chachamim, toujours, ils couvraient le corps. Couvrir le corps, c'est un inyon. La première des choses qu'Hachem a organisée pour Adam Rishon, de couvrir le corps. Un corps doit être couvert, sinon le Satan, il a ce chalam, il... Alors, ils avaient imprimante 3D. Ah, ils avaient une imprimante 3D. Ah oui, pas mal. Alors, Amar Rachava, je continue la Gemara. Vous êtes avec moi? Rachava, il a dit Amar Aviuda. Oui? Amar Rachava, c'est un amoïre qui s'appelle Rachava. Amar Aviuda. Shelosh Aronot Asa Betzalel. Betzalel a fabriqué trois armoires pour l'Aron HaKodesh. Emtsai shel etz, le milieu était en bois. Tisha, neuf tefachim. Parce que le texte dit, Vasit elacha Aron etz. Il y a deux dinim. Moshe Rabbeinu, il a fait un Aron etz, du bois, dans lequel les luchot se trouvaient depuis Kippour jusqu'à l'inauguration du Mishkan, pendant 6 mois depuis Kippour jusqu'à 1er Nissan, les louchot, les cassés et les pas cassés, se trouvent dans un arbre que Moshe Rabbeinu a fabriqué seul. Sur ça, on dit Vasit al Aaronet. Après, il y a le Aaron que Betzalel devait faire pour mettre le louchot dedans. Et une fois, c'est marqué Vasit al Aaronet et Vetsipita oto zahav mi bait ou mi chutz tetzapenu. Alors, j'aurais pu croire qu'on fait un armoire en bois et après on le couvre, comme on dit, avec des feuilles en bois. Or, ce n'était pas comme ça. Mais il faisait trois boîtes. Une boîte en bois, une deuxième boîte en or, une troisième boîte en or, mais une boîte en or plus grande que le bois, une boîte en or plus petite que la boîte en bois, et après on mettait une dans l'autre. Donc, il y a trois boîtes qui sont emboîtées une dans l'autre. Alors, Emtsai shel etz, le milieu était du bois, Tisha penimi, neuf tfachim, Tisha, Emtsai shel etz, Tisha, neuf, penimi, shel zahav, shemuna. Après, il y avait l'intérieur en or, qui avait une hauteur de 8 tfachim, chitzon, asara umashu. Et après, la boîte à l'extérieur, qui elle avait 10, umashu, un petit peu plus. Et si tu dis que le bois était neuf et après l'or en milieu un peu moins, alors où était le caporet? La caporet était sur laquelle? Sur le bois. La caporet était un tefach, il est marqué. Caporet, tofach, un tefach. Donc si tu mets 9 tfachim hauteur le bois, le couvercle d'or, et celui qui est à l'extérieur, il a déjà 10 tfachim. Donc le caporet, il va rejoindre l'épaisseur de l'or de la boîte d'extérieur. Comme on le l'or à l'intérieur, il a un tfach moins que le bois. Qu'est-ce qu'on gagnait? Pourquoi ça a été comme ça? Et les louchot, ils étaient posés où? Sur l'or, donc pas sur le bois. C'est-à-dire les louchot, ils n'ont pas touché le bois. Ils ont touché l'or parce qu'à l'intérieur, c'était aussi une boîte en or.
Alors, les louchot, elles étaient sur le côté, non? Elles étaient en dehors de l'arche, non?
Non. Vesamta el Aaron et haluchot asher etenelecha. Les louchot, ils étaient dans le Aaron. Je me fourrage plusieurs fois dans le Chumash.
Alors, la c'est celle cassée?
Non. La machloket Rabbi Yehuda Rabbanan, c'est sur la Sefer Torah que Moshe Rabbeinu a écrit. Est-ce que la Sefer Torah était à l'intérieur ou la Sefer Torah était à l'extérieur d'Aaron Kodesh sur une petite table en bois à l'extérieur? Sur ça, c'est la machloket. Mais les louchot, badaï, ils étaient à l'intérieur. Louchot veshivre louchot munachim ba'aron. Les deux, ils étaient dans l'aaron. Alors, la Gemara demande, lisons Rashi, vous avez Rashi, shalosh aaronot. Tu n'es pas mis bas, tu mets chutz de tzapen ou de l'extérieur, de l'intérieur, tu vas le couvrir. Mishelets ba'emtsa va'oshivo betoch shel zahav. Il a mis le bois à l'intérieur de l'or. Bechazar v'natan shel zahav sheni betoch shel etz. Après, il a mis le deuxième boîte en or, dans la boîte en bois. Bechipa sefato ha'eliona v'zahav. Il a couvert le lèvre en haut avec de l'or. Nimtsa metsupe mibayit u'michutz. Le bois en haut aussi était couvert avec de l'or. Tisha govho tisha tefachim mibachutz shenemar ama v'cheitzi komato. Une ama et la moitié komato. Et une ama, c'est quoi? C'est 6 tefachim. Et donc v'cheitzi, c'est 3. 6 sur 3, ça fait 9. Donc l'armoire en bois, il a 9 tefachim. V'raglayon lo hayolo, il n'y avait pas de pieds. Et la etz chalul haya, c'était du bois vide à l'intérieur, il n'y avait pas de bois. Pinimi, shazahav, chet, tefachim, vit, tefachim, govho, mi bachutz, im ovio, im ovi, shulav, avec l'épaisseur de son shulav. Shulav, c'est le parterre. Ve ovi, shulei haetz, shel emtsai, tefach. Nimtsa, pinimi, memale, chalolo, shel emtsai. Aha. Si le bois, il était de 9 tefachim, et l'or était obligé d'être un peu 8. Pourquoi il devait être obligé 8? Parce qu'il est déjà un tefach au-dessus du bois, parce que le bois lui-même, il a un tefach. Le bois, la hauteur du parterre d'un bois, c'est un tefach. Donc, c'est normal que l'armoire qui est à l'intérieur, il ne doit pas avoir que 8 tefachim hauteur, c'est juste. Bechitzon shel zahav, yud umashu, il est 10 et un petit peu. Tisha keneged gove haemtsai, 9, qui correspond au de gove de emtsai de l'armoire au milieu. Umashu, ovi, shulei zahav, shel chitzon, vetefach asiri, ole, le moule, ovi hakaporet. Il monte un petit peu au-dessous de l'épaisseur de kaporet, shu tefach. Donc, voilà. Ça veut dire que il avait vu 10. Qu'est-ce que tu gagnes 10? Parce qu'il faut l'épaisseur du caporet. Le caporet, c'est un tefach. Va tanir la gemara du monde, echadasar ou machou, 11 un petit peu plus. Toi, tu dis 10 un peu plus. Mais on a vu 11 et un peu plus. Loka, ça c'est pas un couché. Hakemandamar yeish be ovio tefach. C'est le ovio. Est-ce que le ovio, l'épaisseur était un tefach ou pas? L'épaisseur de quoi? Lisons Rashi. Vatan yachad asar umashu. ומשנה הכמדמה יש בעובי שולי הזהב טפח, יענה כדי כלפסור דולור, את אין טפח, כאשר יש בעובי שולי העץ, כום לפסור דובו את אין טפח, כום סלור אקסטריר עושי את אין טפח. הכמד אמר, אין בעובי הטפח, אלא משהו, ולא ידענה איך הם לגדנו, כי היה מחלוקת כום סל. אומן משהו, זר, מתנועי די, דיס אמפטיפה, ואונס אמפטיפה. Qu'est-ce que c'est ce un petit peu? Un petit peu, c'est le zer. Zer, zahav, saviv. C'est une couronne. Autour d'Aaron HaKodesh, il y avait une petite couronne. Am Rabbi Yochanan, shlosh hazir in hen. Il y avait trois couverts. Shel Mizbeach. Le Mizbeach, c'est marqué zer, zahav, saviv. Et shel Aaron, zer, zahav, saviv. Et shel Shulchan aussi. Zer, Zahab, Saviv. Deux zer. Zer, c'est une couronne, mais c'est une bonne couronne. Ce n'est pas une mauvaise corona. C'est une bonne couronne. C'est une couronne qui donne la vie. Pas le contraire. Qu'est-ce qu'il dit, Rashi? Zer, est-ce qu'il y a quelqu'un de vous qui a une photo? Docteur Arbib, est-ce que peut-être quelqu'un a une photo du zer d'Aaron HaKodesh? Docteur Limon Torah, tu as une photo du Aaron HaKodesh? Et de Mizbeach, il y avait trois outils qui avaient un zer. Le Mizbeach Azahav, le Aaron HaKodesh et le Shulchan. Trois zers, trois couronnes. Ça représente trois pouvoirs. Les objets de Kedusha, un pouvoir. Hein? Si vous avez, si quelqu'un peut le trouver. Ça se trouve dans tous les nouveaux. Ah, voilà. Ah, et le zer, on le voit bien, le zer. On le voit très bien. Chazak, est-ce que tu as un shulchan aussi? Est-ce que. Hein, tu as le shulchan aussi, Aaron? Il y a quelqu'un qui a la taille de Shulchan ou qui a le Mizbeach avec le zer. Ah, on le voit ici, voilà. Ici, on le voit, oui. On voit le zer. C'est sur la table, il y a une petite couronne. Il y a une petite couronne, oui. Et maintenant, l'autre, amène l'autre. Le Mizbeach. Il a aussi une couronne, le Mizbeach de Ketoret, non? Vous avez le Mizbeach de Ketoret? Alors, Aaron Meya. Fais-nous. Voilà. Voilà, très bien. Comment était fait exactement le zer? On ne sait pas. Il s'imagine comme ça. Et quelque chose, une couronne. Alors, d'accord. On revient chez nous. Très bien. Il y a trois couronnes. Et chacune, il a une signification. La couronne de Mizbeach, ça veut dire la avoda de Korbanot. C'est Aaron HaKohen qui était zoché menatlo shel shulchan du table Zaha David. La table, ça veut dire l'argent, ça veut dire le pouvoir. Les ikar du pouvoir, les ikar du roi, c'est de donner à manger au peuple. Le roi, il est responsable pour la partie politique de Parnassa du peuple. Ça veut dire, chacun, il est d'une certaine manière responsable sur sa propre parnassa. Il doit nourrir soi-même et sa famille. Mais il y a des choses que le particulier ne peut pas faire. Une organisation d'un État, ça ne suffit pas à la participation de chaque individu. Il faut un pouvoir central, il faut un roi qui organise les choses. Quand tu veux créer un SNCF ou tu veux créer RER à Paris, le particulier ne peut pas créer un chemin de fer. Peut pas créer. Il faut qu'il y ait un État qui crée de toutes les parties, il utilise l'argent et les participations de tout le monde pour créer Donc, il faut un pouvoir. Donc, ça, c'est David et Meller qui étaient zochés ces tables. Menatlo, c'est la Aaron. Et la couronne du Aaron, c'est la Torah. Adai Mounach, où lui, il était posé. Et Kola, Rotzel, Ikach, Yebo, Yekach. Chacun, il peut prendre. Tamit Chacham, tu peux devenir roi, tu ne peux pas devenir roi. La royauté a été donnée à David, tu ne peux pas lui prendre. La Kahuna, devenir Kohen, on ne peut pas. Soit qu'on est né Kohen, et si on n'est pas né Kohen, on ne peut pas lui prendre. Mais Tamit Chacham, tu peux. Ça, c'est à la portée de tout le monde de prendre la couronne de la Torah. Mais pour prendre la couronne de la Torah, il faut la connaître. Et après, les gens, ils vont te donner la couronne. Il ne faut pas la prendre toute seule, la couronne. Alors, Shema Tomar Pachot, peut-être tu vas dire que la couronne de la Torah, elle vaut moins. Elle est moins. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Shlosha Zirin, Naas Ubakliako de Shemiz Be'ar, Siman la Keter Kuna. Keter, c'est-à-dire, c'est un pouvoir. L'Aaron HaKohen, il a un pouvoir de dominer le moussard, l'Irat Shamaim du peuple. Il les met à terre, il enlève les péchés, il leur donne la vie, il enlève les épidémies. Aaron HaKohen, le Ketoret, avec ça, il a enlevé les épidémies. Il était responsable, Rouhani, de la santé Rouhani du peuple juif. Il était responsable, c'est lui qui l'a fait. Mais chez Aaron, Siman Leket HaTorah. C'est aussi un pouvoir, la Torah donne un pouvoir à l'homme. Chez le Shulchan, Siman Leket HaMachut, chez le Shulchan, Siman le Osher Melachim, la richesse du roi. D'accord. Alors, Veshem Otomar, peut-être on va dire la couronne de la Torah, elle est petite. Elle n'a pas un vrai pouvoir, la Torah. Le Khadramit Khacham n'a pas de militaire autour de lui. Il n'a pas une caisse à Genève où il peut prendre l'argent. Non, tu aurais pu croire, peut-être ce n'est pas un grand pouvoir. Alors, Talmud Lomar, mais le Passouk de Michelet, Bi, Melachim Yim Lohu, Bi, avec moi, ici moi, moi c'est la Torah. Melachim Yim Lohu, les rois, ils règnent grâce à la Torah. Rashi, Bi Melachim Yim Lohu, Begadol, Hamamlich. Min Hamelech. La Torah Amra Mikrasé. C'est la Torah qui donne le pouvoir au roi. Alors pourquoi il y a des rois qui ne sont pas très bien? Si c'est la Torah qui donne le pouvoir au roi, pourquoi il y a des rois un peu bizarres? Si c'est la Torah qui donne le roi, ça veut dire quoi? La Torah donne le roi. De quel roi? On parle d'un roi goy. On parle d'un roi juif, passe tout. Le roi juif. Alors, il y avait des rois juifs qui étaient corrompus. Ça veut dire que la Torah n'était pas bien étudiée à leur époque quand il y avait des rois mécréants. Qui leur a donné le pouvoir?
Ils ont acheté avec l'argent.
Alors c'est pas la Torah qui les a nommés. Alors, ce n'est pas la Torah qui les a nommés. Ça veut dire « Bim Elachim Yim Lohu » c'est le roi Tzadikim. Les rois Tzadikim sont nommés par la Torah. Ou la Torah, elle n'était pas bien. Où la Torah, la religion, elle était mal. Elle était mal. Et le chef de la génération, ils sont toujours l'essence de la génération. C'est un grand yassod. Le chef de la génération correspond à ce qu'est la génération. C'est comme ça. Si la génération est comme ça, chaque génération a le chef qu'il mérite. C'est comme ça. Mais c'est ça qu'on mérite. Il représente, il reflète. Le roi reflète, mais la génération, elle est composée de beaucoup d'éléments. Oui, et ben, le roi aussi, il est composé de beaucoup d'éléments. Et s'il n'est pas composé de beaucoup d'éléments, il tombe. Le roi, il est composé par tous les éléments du peuple. Donc, tu vois un roi, comment il parle, et ben, c'est ça le fond. Tu vois, je ne sais pas, peut-être en Amérique, un roi... un président qui a un peu un langage un peu pas très bien soigné. Et Macanire, c'est ça le peuple. Le peuple, il n'est pas très bien soigné. Il a un langage un peu cru. C'est lui qui représente. Maintenant, le président là-bas, il aime les Juifs. Macanire, c'est un Amérique. On aime quelque part les Juifs. On respecte les Juifs. On respecte la vie. Le président aussi. Chaque fois, ça correspond un petit peu. Le roi, il représente. Alors, Bim et Lachim, Yim Lochou. Rabbi Yochanan Rami. Rabbi Yochanan pose une kushya. Ktiv le marqué zer. Mais Rashi dit, il y a un rachis important. Bi melachim ilochu, c'est avec moi que le roi régnait avec Gadol hamamlich min hamelech. Ce qui est mamlich, ce qui donne le pouvoir au roi, il est plus grand que le roi. On dit la Torah, elle est au-dessus du roi. Pourquoi? Parce que c'est la Torah qui nomme le roi. Et ça, c'est un yassin dans la politique. Il y a un politique, il y a un président, il y a quelqu'un qui a influencé que lui sera le président. Et ce qu'il a influencé, il est au-dessus de lui. Le président, il doit sa place à des amis qui l'ont mis à la place. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de présidents qui font des choses, on ne sait pas pourquoi. Il y a des présidents qui font des choses, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. C'est parce que les gens qui l'ont nommé. C'est comme l'autre, pas Mitterrand, l'autre, comme il s'appelait, Hollande. Hollande, il voulait faire le mariage pour tous. Pourquoi? C'est parce que les gens qu'il avait nommés, qui lui ont donné, payaient l'argent. Comme ça, on raconte. Les gens qui ont payé son élection, ils ont dit, on vous paye votre élection à condition que vous nous faites du kavod. Et c'est comme ça. Ils sont vendus à ceux qui l'ont nommé. C'est pour ça, alors, nous, les démocraties qui nomment le peuple. Donc, il faut que le président fasse plaisir où il roule le peuple, où il représente 51, il fait des promesses à la 50. Si le peuple veut un président comme ça, le roi est obligé, le président est obligé de s'abaisser pour faire la volonté, pour se faire nommer. C'est pour ça que le président, il fait des choses bizarres parce qu'il veut plaire il veut plaire aux gens qui le nomment. Ceux qui nomment le roi, il a le pouvoir au-dessus de lui. Mais ici, dans les vrais rois, c'est la Torah. Donc, si c'est la Torah qui choisit un roi, donc un président qui vient chez les Chachamim, ils disent, monsieur les Chachamim, je voudrais être le roi, donnez-moi votre soutien. Eh bien, les Chachamim, ils disent, tu veux notre soutien, eh bien, il faut que tu correspondes à la Torah. Tu feras ce que la Torah dit, nous allons être avec toi. Tu vas t'écarter de la Torah, on ne va pas te soutenir. Donc, il est dans la main de la Torah, Baruch HaShem, le vrai roi. Mais David Melech est obligé de donner din v'cheshbon devant la Sanhedrin. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il était obligé de montrer patte blanche devant la Sanhedrin.
Sinon, mais le roi, c'est une demande du peuple.
Quoi?
Le roi.
Oui.
C'est une demande du peuple.
C'est une demande du peuple, mais il est validé par la Torah. Il est validé par la Torah. C'est ça que la Torah nous raconte. Bi melachim yimlochu.
Oui, mais a priori, la Torah, elle ne veut peut-être pas de roi.
Il est validé par la Torah, mais c'est
non, Dieu la qui Torah nous dit que si le peuple veut le roi, eh bien la Torah, elle est d'accord avec la royauté. La Torah, elle a prévu la royauté. C'est un longuignan, c'est pas sur un pied. Parce que la Torah vraiment hébreu, la chatrine et le roi, ou bédiavad. La Torah veut la chatrine et le roi, mais la chatrine est dans certaines conditions. Dans certaines conditions, c'est bédiavad, dans certaines conditions, c'est la chatrine. Il y a des bruits chez quelqu'un, il faut arrêter les bruits chez quelqu'un. Voilà. Non, il faut arrêter les bruits. Vous voulez parler, docteur Harbib?
Oui, non, je voulais. Toute la succession de beaucoup de rois après. Des rois juifs, ils ont été, on va dire, d'après ce qu'on a entendu des histoires, ils ont été mauvais la plupart. Ils ont été sanguinaires, ils ont été. Et si c'est validé par la Torah, comment? Ça représente le peuple, ça veut dire c'est validé, mais ça, c'est difficile à comprendre.
D'abord, c'est faux. La majorité des rois de David et Melech étaient des tzadikim. La majorité
après,
des rois étaient
après
des
David et Melech.
Après David et Melech étaient des tzadikim. La majorité. Et s'ils sont sanguinaires, des fois, le sang est obligé. Pourquoi il y a des bruits chez vous? Il y a un truc que vous avez... Ça bouge quelque chose chez vous. Qu'est-ce qu'il y a?
Ah, le micro.
Éloignez le micro d'une source de... Maintenant, on n'entend voilà, pas. D'accord.
Là, ça y est.
Voilà, maintenant, c'est bon. Et des fois, c'est sanguinaire. Le Rochovam.
Oui, tout cela.
Il y avait 500 000 morts là-bas et c'est une guerre de religion. Un peu politique, mais une guerre de religion parce qu'ils revenaient de vote et ils ont commencé à quitter la Torah. Ils ont fait une guerre. Ça faisait 500 000 morts, mais c'était une guerre de religion. Ça affaiblit la clipa de Yerovam. C'est une guerre de Shem Shamaïm. Okay. À la fin, le prophète, il a dit, ça suffit. Il y avait deux cas. Il y a une fois... Il voulait faire la guerre, le prophète il dit ne fais pas. Et son fils, il a fait la guerre, le prophète n'a pas dit fais pas. Il dit qu'il fallait faire cette guerre. C'est terrible, une guerre civile où il y a 500 000 morts, c'est terrible. Mais c'était pour la bonne cause. C'était pour la bonne cause. Alors, où nous sommes? La majorité des rois, ils étaient 8 tzadikim. Asa est un tzadik, Yoshafat est un tzadik. La Tanakh nous raconte sur chaque roi quand il a fait une faute. Quand la Torah nous raconte une faute sur un roi, c'est dire que c'est un tzadik. Parce que pour le rachat, on parle de ses mitzvot. Quand la Torah nous dit sur un roi, il a fait telle et telle mitzvah, c'est dire c'est un rachat, mais il a fait cette mitzvah.
Et Achav?
Hein?
Et Achav?
Achav, on nous parle de ses mitzvot. On nous dit, Rak davar ze, quand il a déchiré ses habits, quand le prophète, il a dit, tu vas mourir, il a jeûné, il a pleuré, il a demandé mechila chez le prophète, mon père, fais pas ça, et jusqu'à l'inévi, il a dit, d'accord, c'est la catastrophe va pas arriver dans ton époque, mais l'époque de tes enfants. On parle de ses mitzvot. C'est toujours comme ça. Alors, où nous sommes? La Torah cherche toujours les failles qui étaient chez les tzadikim. Tout est toujours pour le mettre dans la bonne perspective quand la Torah nous parle d'un faux, d'un tzadik. Alors, où nous sommes? Amarava. Non, où nous sommes? Rabbi Yochanan Rami. Rabbi Yochanan, il posait une contradiction. Ktiv, une fois il est marqué, un armoire en bois. Fais-toi. Toi, tu dois faire. Le ktiv, c'est marqué, Ve'asu Aaron atzei shittim. Il doit faire un armoire en bois de shittim. Il, ça veut dire les Juifs, le tzibour. Et une fois toi, tu dois faire. Bon, là, on ne parle pas mitzad halakha, on parle ici mitzad ramazim. Mais quand ici, on déduit le tamit racham, chez Benei, Hiro, Metsuvin, la Sotlo, Menachto. Les gens de la ville sont obligés de s'occuper de son travail. Ça veut dire qu'ils doivent s'occuper de son travail. C'est-à-dire pour sa parnassa. Mais à sous, Aaron, eux, il doit faire, c'est-à-dire pour que le Tamit Racham ne sera pas accaparé par ses soucis d'argent, il faut que les gens de la ville s'occupent qu'il aura sa parnassa, qu'on lui assure sa parnassa. Mais tu te souviens, la sotte l'homme à l'afto. Donc, va assis, talachat, toi, tu dois faire Aaronet, toi, le Racham, et les autres, ils vont faire pour sa parnassa. Mi bait ou mi chutz, tetsapenu. De l'intérieur et de l'extérieur, tu dois couvrir ce Aaron avec de l'or. Amarava, Rava, il dit, Kol tamit chacham she'en tocho kebaro eno tamit chacham. Un tamit chacham que le tocho, l'intérieur, n'est pas comme l'extérieur, c'est pas un tamit chacham. Ça veut dire quoi l'intérieur? Ça veut dire quoi l'extérieur? L'intérieur, ça veut dire comment il se comporte en cachette. Et l'extérieur, comment il se comporte en public. Maintenant, il peut avoir un homme, il vit une double vie. Privé, mais devant tout le monde, il se comporte comme le tzaddik. Donc, quand les gens ils le voient, ils disent, il est bien. Mais à l'intérieur, il n'est pas comme ça. Donc, il te dit que si à l'intérieur, il n'est pas comme à l'extérieur, alors, ce n'est pas un tamit racham. En vérité, chaque homme, pratiquement chez chaque homme, presque chacun, l'extérieur et l'intérieur n'est pas la même. Un homme, il veut qu'on le voit bien, mais que l'intérieur, il fait ce qu'il dit. Ça,
c'est un tamit racham, mais pas un tzadik. Mais un tamit racham, c'est.
Non, il n'est pas un tamit racham. Peut-être il a des connaissances, mais ce n'est pas ça que la Torah appelle Tamit Chacham. Il a peut-être, c'est un aide-mémoire, peut-être il connaît des textes par cœur, peut-être on peut le consulter, mais ce n'est pas un Tamit Chacham, c'est un livre, c'est un ordinateur, Dr. Google. Google, c'est un grand Tamit Chacham. Tu peux lui demander n'importe quelle question, il te répond tout de suite. Mais ce n'est pas un Talmid Chacham. C'est... Alors... Il s'appelle dégoûtant. Tnema av ki nitav venelach is sote kemaim av. Et Torah kemaim v'yesh bo avla. Un homme qui boit la Torah comme l'eau. Et il y a Avla, eh bien, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il va quoi? Il va...
On n'a rien entendu, Rav, depuis 20 secondes.
Il cache à l'intérieur son manque de honnêteté. À un moment, ça va sauter, les gens ils vont le voir. Rashi, Amar Rav Shmuel ben Achmine, Rav Yonatan, Maï Dichtiv, Marc Adam Michelet, Lama Ze Mechir. Beyat Ksil. Pourquoi on donne Mechir un prix, Beyat Ksil, dans la main d'un imbécile? L'éclot Chochma, pour qu'il acquiert la Chochma, Velev Aïn, mais il n'a pas de cœur. À quoi se sert donner à un imbécile beaucoup d'argent pour qu'il achète la Chochma, mais il n'a pas de cœur pour le comprendre? Donc il y a ici un homme, il acquiert de la Chochma, il acquiert du savoir, mais il reste un imbécile. Il reste un imbécile. Et le Navi, il dit, l'amazé, il ne faut pas faire ça. Oilahem, ici, Oilahem, le sonnem, shel temida chachamim, gar aux ennemis des talmides chachamim. C'est une façon de dire, gar aux talmides chachamim, shoskim batorah, qui se mettent pour étudier, veim bahem, iratchemai, mais ici, ils n'ont pas de crainte du ciel. C'est-à-dire, s'il n'accomplit pas ce qu'il dit, alors, si sa vie ne correspond pas à ce qu'il dit, oilo, eh bien, c'est gare à lui. Machriz Rabbi Yanaï, il publiait, Chaval, il est dommage, al de letleit darta, il n'a pas de maison, mais tara, le darte avid, et une porte pour sa maison, il fait. Il n'en met pas de maison, alors il achète une porte et se promène avec sa porte. Bonjour monsieur, bonjour, d'où vous venez? Moi je viens de Brico Marché. Alors qu'est-ce que vous avez acheté? J'ai acheté une porte. Une porte de quoi? Ben, c'est la porte d'une maison. Ah bon, et vous avez une maison? Non, je n'ai pas de maison. Ah, vous n'avez pas de maison? Vous habitez où? Je suis SDF. Et alors, vous allez quoi faire avec votre porte? Eh bien, c'est la porte de ma maison. Mais vous n'avez pas de maison. Oui, alors j'ai la porte. Elle vous sert quoi cette porte? Elle vous sert quoi la porte? Si vous avez une maison, vous mettez dedans votre argent. Vous ne voulez pas qu'on vous le vole. Alors, vous mettez une porte, comme ça, vous pouvez fermer. Comme ça, on ne va pas voler. Mais si vous n'avez pas de maison, où vous allez poser votre chose, toute chose sera volée. Ce n'est pas cette porte-là qui va protéger votre argent, étant donné qu'elle n'avait pas de maison. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yanaï? C'est-à-dire qu'il y a la Torah et la Yirat Shamayim. Donc, la porte, c'est la Torah. Et tu vas faire entrer par cette porte les connaissances de la Torah. Mais si tu n'as pas d'Yirat Shamayim, eh bien, tout ce que tu vas faire entrer derrière la porte, elle ne sera pas protégée, elle sera volée. La Torah, tu as accumulé, elle va quitter. Elle va te quitter, elle va pas rester. Tu n'as pas de maison pour protéger ta Torah. Donc, ça ne sert à rien d'avoir une porte. Amalou Rava le Rabbanan, Rava, il dit au Chachamim, Yamatou Teminaïchou, je vous supplie une chose. Il dit au Avrechim de Kolel, à Bachore Yeshiva, à tous les gens qui venaient étudier chez lui, Yamatou Teminaïchou, soyez gentils. L'otirtun tartegenom. Il ne faut pas que vous ayez deux fois l'enfer. Pourquoi deux fois l'enfer? Ça ne suffit pas une fois l'enfer. Faites attention de ne pas avoir un double enfer. C'est quoi ce double enfer? Rashi dit tartegenom. Liot yigeyim. Va meile ma Torah. Vous venez étudier, vous cassez la tête pour la Torah. Bolamazé. Velot kaimu. Si vous accomplissez pas la Torah. Tirshugenom, vous allez avoir Gehinom, vous montrez mal à mort. Ou Bachayechem, et dans votre ville, on est Henneit, vous n'avez même pas profité. un homme, il s'amuse dans ce monde. Il cherche l'argent, il vit avec une belle maison, il a une bonne vie, mais il ne fait pas de Torah. Alors quoi? Au moins dans ce monde-là, il a kiffé. Mais si tu viens étudier et tu ne profites pas de ce monde, alors tu auras l'âme abba. Mais si tu ne fais pas les mitzvot, tu n'auras pas l'âme abba. Tu auras le double Gehenom. Et qu'est-ce que Rabbi est en train de dire? Mieux vaut avoir un double Gehenom qu'un simple Gehenom. C'est mieux de s'amuser dans ce monde. Évidemment que non. Évidemment, il est mieux de ne pas avoir l'âme abba ni l'âme abba que de kiffer dans l'âme abba et pas avoir l'âme abba. Mais il veut dire, si déjà, c'est simplement une façon de parler, et si déjà tu te prives de beaucoup de plaisirs de ce monde, c'est bien. Mais fais attention au moins hein, qu'on te paye en contrepartie de l'âme abba. Si tu te comportes de façon que tu n'auras pas l'âme abba, ah, c'est dommage. Ce n'est pas qu'ils veulent les encourager de ne pas étudier. Voilà, étudie pas. Non, étudie, mais fais attention d'avoir aussi en là-bas. C'est une façon de parler. Bon, d'accord, on va arrêter ici. Et Bezat Hashem à 14h en bonne santé avec des bonnes nouvelles. Bezat Hashem.
Merci, Rav.
Merci, Rav.
Salut à tout le monde. Une bonne nouvelle pour tout le monde.